France Musique. France Musique, les grands entretiens, François Bonnet.
François Bell, je suis né en 1932 et j'ai essayé d'être un compositeur de musique acousmatique.
Ainsi que tourne une dame qui danse, les pieds joints et glissant sur le sol, faisant à peine un pas devant l'autre sur les fleurs d'or et sur les fleurs vermeilles, elle se tourna vers moi, comme une vierge qui baisse ses yeux modestes.
François Bell, bonjour.
Bonjour, François Bonnet.
Nous avons jusqu'alors, dans les trois précédentes émissions, suivi votre parcours de manière assez chronologique, notamment à travers votre enfance et votre chemin qui vous a mené jusqu'au GRM. Nous atteignons à présent une période de maturité, celle qui commence au milieu des années 60 et qui ne finit pas. Il me semble peut-être préférable maintenant de se concentrer vers une approche plus thématique, notamment autour de vos idées, de vos concepts et de vos inventions. Mais en préambule, pour revenir un petit peu à l'origine de la musique concrète, il y a quelque chose que vous dites parfois qui me semble assez frappant, c'est que si Pierre Schaeffer et Pierre Henry, qu'on n'a pas encore évoqué, étaient des enfants de la monophonie et du son du haut-parleur, vous étiez un enfant de la stéréophonie.
Oui, c'est vrai, mais ça c'est une perception qui m'est venue que progressivement. Au tout départ, bien sûr, j'étais subjugué par... L'ingéniosité, la faconde sonore de Pierre Henry. Et d'ailleurs, Pierre Schaeffer, quand il a cessé de travailler avec Pierre Henry, a essayé de trouver un alter ego. Et il l'a trouvé d'ailleurs. Le premier qui était très fécond aussi, c'était Luc Ferrari. Et le second qui l'a été encore, jusqu'à la fin de sa vie, c'est Bernard Parmigiani. Et ce sont, au fond, les grands du GRM, ces trois noms-là. Mais c'est vrai que sont arrivées aussi des trouvailles techniques différentes et que l'entrée en scène de la stéréophonie a été un seuil qui rebattait les cartes et qui permettait de créer un autre espace et donc de la place pour un nouvel imaginaire. Construire un autre type d'écoute et un autre projet musical. Le traité des objets musicaux, c'est un traité de la monophonie. Ça considère l'objet comme un bloc. C'était très utile parce que ça crée un vocabulaire, ça a permis de focaliser l'attention sur les constitutifs de l'être énergétique sonore et de lui donner une dimension musicale. Mais après, le grand problème, c'était de sortir d'une musique d'objet. L'objet avait un énorme tropisme, c'était un espèce de poids comme ça. Et la musique, c'est justement, c'est quand on est entre les objets, quand on s'envole. La stéréophonie, on pourrait dire, d'un point de vue poétique, ça a été un peu l'envol de l'objet, puisque l'objet est solitaire du haut-parleur qui le projette. Finalement, c'est le haut-parleur qui sonne. Et l'objet, c'est ce qui sort du haut-parleur, cette espèce de gros son qui sort de cette grosse boîte et qui nous impressionne par son réalisme et par son caractère autoritaire, son être-là. Et quand la stéréophonie survient, pour les gens qui n'ont jamais réfléchi à cette question, qu'est-ce que c'est que la stéréophonie ? Eh bien, c'est non plus un haut-parleur, mais un espace entre deux haut-parleurs. Et c'est un son qui s'installe et qui voltige entre les deux, qui n'est plus situé de l'origine du point d'émission, mais qui est dans une perception auditive spatiale. C'est un son qui vient de nulle part. Et c'est une toute autre considération, déjà perceptive et projective. C'est-à-dire, que fait-on avec les sons qui viennent de nulle part ?
Alors ça va peut-être rejoindre ce que vous venez de dire. Il y a aussi un moment où vous décidez d'employer le terme d'acousmatique qui avait été relevé par Jérôme Peignot et puis repris par Schaeffer, notamment dans le traité. Et vous décidez d'étendre finalement, je ne sais pas si étendre est le terme exact, mais de prendre ce terme pour l'accoler à musique, pour la musique acousmatique. C'était une nécessité de rupture avec la musique concrète ou une prolongation ? Qu'est-ce qui ne convenait plus dans le terme de musique concrète ?
Oui, c'était l'idée d'installer une différence, effectivement, et une légitimité professionnelle, on pourrait dire, de l'acte compositionnel par rapport à des outils techniques nouveaux et qui reposaient la question de la musique, la plus générale qui soit. La musique reste la musique. Quand on utilise un idiophone polynésien ou un piano Erhard ou Steinway, l'acte musical est là. Et si on utilise des outils technologiques et une projection stéréophonique, eh bien, c'est un autre acte musical. Il faut l'identifier, le légitimer. Et à un certain moment, s'installait une confusion. Est-ce que la musique, c'est lorsqu'il y a un acte musical visible sur la scène, et qu'advient-il d'une musique qui prétend l'être alors qu'il n'y a plus personne sur la scène et qu'il n'y a que des haut-parleurs et qui se fait en studio et non pas en temps réel devant les gens.
Ce qui est la définition de l'acousmatique, oui, pour les auditeurs, entendre une source sans en voir l'origine.
Voilà. Et donc, le terme d'acousmatique, qui se réfère à Pythagore, pour les gens qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'était que l'acousmatique pour Pythagore ? C'était simplement un dispositif. Alors, ça vaut quand même la peine d'être évoqué très brièvement, l'idée d'un dispositif. Qu'est-ce qu'un dispositif ? Un dispositif, c'est un agencement très simple qui déplace complètement la perception habituelle et les idées que l'on peut se faire sur les choses. Pythagore avait des élèves, était très réputé, et beaucoup de gens venaient. Eh bien, bien sûr, il y avait une différence entre les anciens qui savaient beaucoup de choses et les nouveaux qui ne savaient rien. Pour bien marquer cette différence, il installait un rideau. Et les nouveaux étaient derrière le rideau. Et les anciens qui connaissaient mieux, et qui étaient ses élèves déjà depuis de longues années, étaient à côté de lui. Donc, Pythagore avait un double langage. Il s'adressait aux gens qu'il voyait et aussi à des gens qu'il ne voyait pas. Et ceux qui ne voyaient pas entendaient une parole quasi divine, puisqu'ils entendaient quelque chose qui avait du sens, mais sans voir le locuteur. Donc ça ouvrait des portes de perception très très différentes. Donc cette situation très étrange, inaugurée il y a si longtemps, c'est Schaeffer qui s'est aperçu la première fois que l'écoute radiophonique faisait revenir à cette situation étrange. Et c'est Jérôme Peignot qui avait trouvé le mot dans le dictionnaire. Thank you.
L'acousmatique se concentre sur la situation d'écoute.
Oui, c'est un index qui pointe sur cette particularité qui est multiple. D'abord, on doit pouvoir faire de la musique avec tout ce que l'oreille peut entendre. C'est ma conception. Donc, porte ouverte à tout ce que l'oreille peut entendre. Ensuite, la question vient, comment est-ce que ça peut ne pas être un bavardage un peu plat? Comment peut-on avoir un projet musical? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut construire avec ces briques de sensations nouvelles? Est-ce que l'on peut édifier un parcours musical? Est-ce qu'on peut faire une œuvre? Et mais mon Dieu, je pense que ça, c'est une question qui s'est toujours posée. Et le plus proche de nous qui se l'est posé d'une manière très nouvelle, très novatrice, c'était Debussy, qui, sortant du carcan des modulations habituelles, a pris des modèles sur les sons que l'oreille peut entendre, les bruits de l'eau, les bruits du vent, les brouillards, les choses indistinctes, inspiré en cela par les expositions universelles qui introduisaient dans l'imaginaire occidental des notions très très différentes et des déséquilibres perceptifs qui étaient immédiatement perçus comme tels et immédiatement compréhensibles. Bon, on peut dire en résumé qu'on s'est aperçu tout d'un coup que la Terre était ronde et cessait d'être plate et qu'il y avait des gens aux antipodes qui pensaient autrement et qui pensaient très bien eux aussi avec des valeurs très différentes des nôtres, et qu'il fallait se mettre à l'école du monde. Et d'une certaine façon, l'acousmatique, c'est ça.
Alors, on est au milieu des années 70,
oui.
Et vous faites face à un défi qui consiste à repenser les modalités du concert, vu qu'une musique acousmatique, par définition, n'a pas d'interprète sur scène. Et si ces concerts avaient été jusqu'alors relativement couronnés de succès, après 1968, vous dites souvent que, pour des raisons multiples, il y a peut-être un désintérêt, et que il y a une urgence à repenser la présentation de ces musiques. Et vous arrivez à une très belle invention qui s'appelle l'acousmonium. Comment cela se passe-t-il?
D'abord, le fait que c'est une énorme révolution qu'introduit la radio d'écouter sans voir. Bon, c'est un premier point qui est extrêmement important. Le second, c'est que ce que l'on entend n'est pas ce qui s'entend d'habitude, parce que c'est grossi par un microphone. On entend des petits phénomènes grossis. Cette dilatation acoustique transporte le son dans des régions absolument inusitées. C'est une deuxième révolution. La musique concrète est la combinaison de ces deux révolutions. Et c'est une extension de l'art radiophonique. Et j'ai expliqué aux compositeurs qui voulaient travailler au studio: vous avez deux moyens, il faut savoir ce que vous voulez. Ou bien vous vous adressez à un auditeur seul, alors faites quelque chose pour la radio. Ou bien vous pensez, et je partage ce point de vue, numéro 2, vous pensez que si c'est bien et si c'est écoutable, ça serait bien aussi qu'on en partage l'écoute en public pour créer une émotion d'écoute collective, ce qui est une des caractéristiques très très particulières de la musique. Alors il va falloir construire un langage qui soit articulé avec des dimensions particulières de l'écoute en public. C'est un phrasé spécial. Et il faudra aussi construire la mise en scène de cette écoute. Alors tout cet ensemble-là était le contexte dans lequel s'est installée l'idée à la fois de l'acousmatique comme art de l'entendre, et puis de la projection en concert dans un espace qui soit typique, et pour lequel j'ai pris un mot de la même famille, acousmatique, acousmonium.
Et l'acousmonium, vous le présentiez à l'époque, Et c'est une image qui est marquante encore aujourd'hui, comme un orchestre de haut-parleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué au cours du temps? Est-ce que c'est aussi pertinent qu'à l'époque? Est-ce que c'était une façon de faire accepter l'idée à un public? Ou est-ce que ça avait un parallélisme avec l'orchestre traditionnel?
Oui et non. Oui, il y a un parallélisme. C'est évident que... Bon, j'ai souvent expliqué à mes amis que l'ancêtre de l'écoute acousmatique, c'était l'orgue. C'était l'écoute dans un grand lieu, inspiré par une religiosité, et où le son venait d'en haut, et où on était envahi, et où, pour la première fois, l'être qui écoute est plus petit que le son qui le domine et qui est finalement un espèce de son de l'univers. L'autre modèle de l'acousmatique, c'est le piano, qui fait qu'un compositeur a tout le total sonore du grave à l'aigu devant lui, qui s'étale, donc il en a une vision géométrique, et avec ses 10 doigts, il peut appuyer n'importe où et fabriquer une espèce de mobile de caldaire où on suspend les sons graves et les sons aigus, on met plus de sons aigus en face d'un son grave qui a à peu près le même poids, et on fabrique des équilibres et on fait bouger ces équilibres en agitant et en dosant ces différents rapports.
France Musique, les grands entretiens, François Bonnet.
À cette époque-là, qui était un renouveau aussi de la civilisation, on sortait des guerres, on était dans la paix, on avait la prospérité, on avait des oreilles nouvelles, on avait de l'espoir, il y avait de l'invention, tous les ans apparaissait quelque chose de nouveau. Des possibles surgissaient sans cesse, les haut-parleurs faisaient des progrès, les magnétophones devenaient de plus en plus fidèles, les microphones aussi, et puis commençaient à arriver des synthétiseurs, c'est-à-dire des instruments avec des capables de produire des sonorités non acoustiques, et puis ensuite les ordinateurs. Enfin bon, chaque année, on peut dire chaque mois, quelque chose de neuf surgissait de l'horizon. Mais il fallait aussi avoir une pensée commune pour exploiter ça dans une espèce de direction commune. Ça a été mes 10 ans, mes 20 ans de GRM, ça.
Il y a aussi une œuvre très emblématique, je trouve, qui s'est composée un petit peu en amont. Une des grandes, votre première peut-être grande œuvre, qui s'intitule L'expérience acoustique, et qui résonne, je trouve, avec beaucoup de choses que vous venez d'évoquer. Très brièvement, quel était l'état d'esprit pour aborder cette grande fresque qu'est L'expérience acoustique ?
Oui, eh bien, d'une part, c'était mes lectures de Bachelard, mes lectures de Merleau-Ponty, mes lectures des ésotériques, mon imaginaire particulier, mon amour de Jules Verne, mes voyages, mon enfance, mes racines extra-européennes, on peut dire, tout ça. Donc, quelque chose qui m'appartenait en propre. Et puis, d'autre part aussi, quelque chose qui résultait de notre situation de groupe et par rapport à Schaeffer, je voulais me distinguer face à un certain nombre de géants, pour moi, dont l'un était Schaeffer, l'autre était Stockhausen, l'autre était Messiaen, mais tout près de moi, plus près de moi, mes propres amis, mon admiration pour Luc Ferrari, pour Pierre-Henri, je l'ai dit, mais surtout, et là je me rapproche de plus en plus des gens de ma génération, de Bernard Parmegiani. Et on peut dire que le GRM est le résultat de notre couple, parce que Bernard Parmegiani, qui a été le successeur, on peut dire rapidement, de Pierre-Henri, avait une imagination d'une fertilité extraordinaire. Et moi, je me suis intéressé, pas tellement au son, mais à l'écoute. Et c'est à partir de ce moment-là que mon objectif n'a toujours été que l'écoute. Comment se passe l'écoute? Qui suis-je? Et comment me nourrit et me construit? Comment ma pensée, mes sentiments, mon être, mon aujourd'hui, mon moment suivant, qui se construit à travers ce que je comprends et ce que je ressens de l'écoute. Donc c'est un journal d'écoute. Et ce sont des catégories d'écoute bien tranchées, que j'ai essayé de définir en quelques mots. L'écoute d'alerte d'abord, parce que d'abord j'ai peur. L'écoute de désir ensuite, parce que quand je n'ai plus peur, je veux des choses, que je les aime. Troisièmement, l'écoute en compréhension, parce que j'ai besoin de comprendre. Donc c'est une écoute qui décortique, qui décompte, qui calcule, qui pige ce qui se passe, qui l'anticipe. Et puis après, je peux construire un degré à l'extérieur de cette plateforme dominée par ce triangle. Trois points déterminent une surface. Et un quatrième point en dehors de cette surface détermine un volume, le volume d'écoute que j'appelle la résonance. Et puis on pourrait passer à une quatrième dimension qui est l'hypervolume si on sort de ce volume par un point encore extérieur, que j'appelle la signifiance. La signifiance générale qui totalise l'écoute de résonance, l'écoute de compréhension, l'écoute de désir et l'écoute d'alerte. Voilà, c'est un peu abstrait ce que je dis avec des mots, mais après je me suis dit, ces mots-là, c'est très bien, n'en parlons pas, mais faisons-le. Et proposons des exemples. Voilà, ça a été l'expérience acoustique, et je n'ai pas cessé toute ma vie de faire, sous des titres divers, des morceaux d'expérience acoustique, jusqu'à maintenant, jusqu'à avant-hier, jusqu'à ce matin.
Merci François Bell, nous explorerons demain, plus avant, les suites de cette expérience acoustique.
Merci François.
C'est sur cet extrait de La philosophie du nom, cinquième mouvement de l'expérience acoustique de François Bell, une œuvre de 1972, que cette émission s'achève. Prise de son, Stéphane Touvenin, mixage, Claire Levasseur, attaché d'émission, Flora Sternadel, réalisation, Lionel Quentin. Rendez-vous demain pour la suite des grands entretiens de François Bell.
À réécouter sur francemusique.fr.